Mirbella la regardait faire en silence. Elle ne voulait pas la déranger dans ses préparatifs. Mais Yonda revint avec l'essence d'épices et commença à remplir les distributeurs. La substance délétère avait une odeur âcre de cannelle amère. Captant l'attention d'Odrade, Mirbella lui dit « Je vous suis reconnaissante de superviser cela en personne. »«
Reconnaissante ?» railla Bey Yonda sans quitter des yeux ce qu'elle était en train de faire.
« Laissez-moi parler, Bey, » dit Odrade en continuant de regarder fixement Mirbella. Bey Yonda n'interrompit pas son travail, mais ses mouvements parurent soudain plus lointains. C'était la première fois que Mirbella la voyait s'effacer ainsi. Elle n'avait jamais cessé d'être étonnée en voyant la manière dont les acolytes s'effaçaient en présence de la mère supérieure. Elles étaient là sans être là. Mirbella n'avait jamais réussi à les imiter tout à fait, même à l'issue de sa probation, quand elle avait entamé le dernier cycle. Bey Yonda aussi. En regardant Mirbella dans les yeux, Odrade déclara « Je sais quelles sont les réserves que vous gardez en vous, quelles sont les limites que vous fixez à votre engagement envers nous. Très bien. Je n'en discuterai pas parce que dans l'ensemble, ces réserves sont très peu différentes de celles que peut faire n'importe laquelle d'entre nous.
Sincérité avant tout.
La différence, si vous voulez le savoir, reprit Odrade, c'est le sentiment de responsabilité. Je suis responsable de ma communauté ou de ce qu'il en reste. C'est une lourde charge et il m'arrive de la considérer avec amertume.
Bey Yonda renifla.
Odrade l'ignora et poursuivit. Le Bene Gesserit s'est beaucoup aigri depuis l'époque du tyran. Nos contacts avec les honorés matriarches n'ont guère amélioré les choses. Il émane d'elle une puanteur de mort et de décadence. Elle glisse à toute allure vers le grand silence.
Pourquoi me dire tout cela maintenant ?
Demanda Mirbella d'une voix où perçait la peur. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez été à peu près épargné par cette décadence. Votre nature spontanée, peut-être, quoiqu'elle ait été quelque peu tempérée depuis gameux.
Vous y êtes pour quelque chose.
Nous n'avons fait qu'ôter un peu d'indiscipline à votre caractère pour vous donner un meilleur équilibre. Grâce à cela, vous pourrez vivre plus longtemps et plus sainement.
Si je survis à ça,
s'écria Mirbella en hochant le menton en direction de la table à côté d'elle.
L'équilibre, n'oubliez pas Mirbella, l'homéostasie. Tout groupe qui choisit le suicide alors que d'autres options existent est un groupe marqué par la folie. L'homéostasie a foutu le camp.
Voyant que Mirbella gardait les yeux baissés vers le sol, Bey Yonda fit sèchement
« Écoutez-la, idiote. Elle fait de son mieux pour vous aider. »
« Laissez, Bey, » dit Odrade.
« C'est entre elle et moi. »
Puis s'adressant à Mirbella, « C'est la mère supérieure qui vous l'ordonne.
Regardez-moi. »
La tête de Mirbella se redressa d'un seul coup et elle fixa Odrade dans les yeux. C'était une tactique à laquelle Odrade avait eu peu souvent recours, mais qui donnait toujours d'excellents résultats. Elle pouvait plonger les acolytes dans un état proche de l'hystérie, puis leur apprendre à maîtriser leur excès d'émotion. Mirbella, quant à elle, semblait plus furieuse qu'émue.
Excellent. Mais c'était la prudence qu'il fallait lui apprendre maintenant.
Vous vous êtes plainte de la progression trop lente de l'enseignement que vous avez reçu, continua Odrade. C'était délibéré dans votre propre intérêt. Vos principaux instructeurs ont tous été choisis pour leur pondération et leur absence totale d'impulsivité. Mes instructions étaient nettes. Ne lui donnez pas trop de talent trop vite. N'ouvrez pas l'écluse d'un savoir qui pourrait l'emporter dans son flot.
Comment pouvez-vous savoir ce que je suis capable d'encaisser ?
Demanda Mirbella, toujours furieuse. Odrade se contenta de sourire. Voyant que la mère supérieure ne disait plus rien, Mirbella parut troublée. S'était-elle rendue ridicule devant tout le monde, devant Duncan et les autres ?
Quelle humiliation !
Odrade n'oubliait pas qu'il n'était pas souhaitable de rendre Mirbella trop consciente de sa vulnérabilité. Mauvaise tactique en ce moment précis. Aucune nécessité de la provoquer. Elle possédait un sens aigu de l'assimilation. Elle s'adaptait aux besoins du moment. Ce qu'elle redoutait toute, c'était que cette chose pût trouver sa source dans son inclination à toujours opter pour le chemin de moindre résistance.
Pourvu que ce ne soit pas ça.
Plus que jamais, une franchise totale s'imposait.
L'instrument ultime de l'enseignement Bene Gesserit, la technique classique pour lier l'acolyte à son professeur.
Je serai à vos côtés durant toute l'agonie. Si vous échouez, ma peine sera immense. Et Duncan ?
Les larmes aux yeux.
Tout ce qu'il pourra faire pour vous aider lui sera permis. Murbella leva les yeux vers les gradins. L'espace d'un bref instant, son regard se riva à celui d'Idaho. Il fit mine de se lever, mais la main de Tamalan sur son épaule l'en empêcha. « À cause d'elle, celle que j'aime va peut-être mourir », se disait Idaho. « Faut-il donc que je reste ici sans rien faire pour voir ça ?» Mais Odrad avait promis qu'il pourrait les aider. « On ne peut plus revenir en arrière maintenant. Je dois faire confiance à Dar. Mais par les dieux d'en bas, elle ne peut pas savoir ce que j'endure. Si seulement... » Il ferma les yeux. « Bey !» fit Odrad, d'une voix qui évoquait l'éclat fragile et acéré d'une lame de poignard. Beyonda prit Murbella par le bras et l'aida à grimper sur la table dont la surface légèrement élastique s'ajusta à son poids. Et voilà le dernier acte, se dit Murbella. Elle n'eut que vaguement conscience des sangles que l'on resserrait et de l'activité accrue autour d'elle. C'est la procédure habituelle, dit la voix lointaine d'Odrad. La procédure. Murbella détestait en bloc toute la procédure qui permettait de devenir Bene Gesserit, toutes ces études interminables, toute l'attention et les réponses qu'il fallait donner aux rectrices. Elle haïssait particulièrement la nécessité d'affiner des réactions qu'elle avait jugées adéquates, mais impossible de se laisser aller sous leur regard exigeant. Adéquate. Quel mot dangereux. Cette prise de conscience était précisément ce qu'elles avaient recherché, exactement la pression dont leurs acolytes avaient besoin. Si vous haïssez la chose, faites-la encore mieux. Servez-vous de votre aversion comme guide. Ajustez votre tir exactement selon vos besoins. Le fait que ses professeurs perçaient si aisément ses réactions, quelle chose merveilleuse. Elle voulait à tout prix acquérir cette capacité, de tout son cœur. Je veux y exceller. C'était un domaine où n'importe quel honoré matriarche avait de quoi se montrer jalouse. Elle se vit, abruptement, sous une espèce de double vision, à la fois Bene Gesserit et honorée matriarche. Intimidante image. Une main lui toucha la joue, lui déplaça légèrement la tête, puis s'écarta. Les responsabilités. Je vais apprendre ce qu'elles entendent par un nouveau sens de l'histoire. La conception Bene Gesserit de l'histoire la fascinait. Quel regard portait-elle sur les passés multiples ? Était-ce quelque chose qui se trouvait immergé dans un dessein plus vaste? La tentation de devenir l'une d'entre elles avait été irrésistible. Le moment est venu d'apprendre. Elle vit le distributeur buccal se mettre en position au-dessus de sa bouche, guidé par la main de Beyonda. « C'est dans notre tête que nous portons notre Graal », lui avait dit Odrad. « Il conviendrait de le porter avec précaution s'il devait un jour entrer en votre possession ?» Le distributeur toucha ses lèvres. Elle ferma les yeux, mais sentit des doigts lui ouvrir la bouche. Le métal froid toucha ses dents. La voix d'Odrad était toujours dans sa mémoire. Évitez l'excès en toute chose. Corrigez à l'excès et vous vous retrouvez avec un beau problème sur les bras. La nécessité d'ajouter des corrections de plus en plus importantes. Le balancier. Les fanatiques sont de merveilleux créateurs de mouvements oscillatoires. Notre Graal est linéaire parce que chaque révérende mère porte en elle la même détermination. Ensemble, nous perpétuerons cela. Un liquide amer coula dans la bouche de Murbella. Elle déglutit convulsivement. C'était du feu qui descendait dans sa gorge, puis dans son estomac. Pas de douleur, à part cette sensation de brûlure. Elle se demandait si c'était déjà fini. À présent, son estomac dégageait seulement un peu de chaleur. Lentement, si lentement qu'il lui fallut le temps de plusieurs battements de cœur pour s'en apercevoir, la chaleur se retira vers l'extérieur. Quand elle atteignit le bout de ses doigts, elle sentit son corps se convulser. Son dos raidi ne touchait plus la surface capitonnée de la table. Quelque chose de doux mais d'implacable lui remit le distributeur dans la bouche. Des voix, elle les entendait et elle savait que c'était des gens qui parlaient, mais elle ne distinguait pas les mots. Tandis qu'elle se concentrait sur ses voix, elle eut conscience d'avoir perdu le contact avec son corps. Quelque part, la chair se débattait, aux prises avec la douleur, mais elle en était absolument détachée. Une main toucha une autre main qu'elle serra fortement.
Elle reconnut le contact de Duncan et retrouva abruptement son corps en même temps que la sensation de douleur. Ses poumons étaient à vif quand elle expirait, mais pas quand elle inspirait. Il lui donnait l'impression d'être exigu, jamais rempli à leur capacité. Puis le sentiment de son existence physique devint un fil ténu qui se ramifiait vers d'autres présences. Elle les sentait nombreuses autour d'elle, beaucoup trop nombreuses pour occuper un si petit amphithéâtre. Une autre créature humaine flotta à l'intérieur de son champ visuel. Murbella eut conscience de se trouver à bord d'une navette industrielle, dans l'espace. L'engin était primitif, trop de commandes manuelles, trop de voyants qui clignotaient. Une femme était assise aux commandes, petite et en sueur sous le poids de sa tâche. Ses longs cheveux châtains étaient roulés en un chignon, d'où s'échappaient des mèches plus pâles qui pendaient sur ses jouaves. Elle portait pour seul vêtement une courte robe où brillaient des tons rouges, verts et bleus. Des machines. Elle sentait, au-delà de l'espace immédiat qu'elle occupait, la présence d'une monstrueuse machinerie. La robe de la femme contrastait fortement avec la morne et envahissante austérité des appareils. Elle parla, mais ses lèvres demeuraient immobiles.
« Écoutez-moi bien, vous. Quand le moment viendra de vous asseoir devant ces commandes, ne devenez pas destructrice. Je suis ici pour vous aider à éviter toutes les espèces de destructeurs. En avez-vous conscience ?»
Murbella voulut lui répondre, mais ne trouva pas sa voix.
« Inutile de faire tant d'efforts, ma fille, » lui dit la femme. « Je vous entends. »
Murbella s'efforça de détacher son attention d'elle. Où se trouve cet endroit? Une seule opératrice, un entrepôt géant, une usine, automatisation complète. Par faisceaux entiers, les lignes de rétroaction convergeaient vers ce minuscule espace qui contenait toutes les commandes complexes. Croyant parler tout bas, Murbella demanda « Qui êtes-vous ? » et reçut l'écho monstrueusement amplifié de sa propre voix, la douleur dans ses tympans.
« Pas si fort. Je suis votre guide dans le Mohalata, celle qui doit vous aider à naviguer au large des destructeurs. »
« Que Dour me protège, » se dit Murbella. « Ce n'est pas un endroit. C'est moi. » À cette pensée, la salle de commande disparut. Elle était devenue migrante au sein du vide, condamnée à ne plus jamais connaître le repos ni le moindre moment de sanctuaire. Tout avait pris un caractère immatériel, à l'exception de ses propres réflexions éphémères. Elle n'avait pas de substance. Tout juste un filament d'adhérence où elle reconnaissait sa perception d'un univers disparu. Je me suis faite à partir d'un nuage de brume. La mémoire seconde tomba sur elle, fragments épars d'expériences qu'elle savait étrangères à elle. Des visages déformés l'observaient, réclamant son attention, mais la femme aux commandes de la navette l'en éloigna. Murbella reconnaissait les nécessités, mais se sentait incapable de les ordonner sous une forme cohérente.
« Ce sont les vies de votre passé, » lui dit la femme d'une voix désincarnée qui ne venait d'aucun endroit discernable.
Puis elle ajouta « Nous descendons de gens qui ont commis des atrocités. » Nous n'aimons pas admettre qu'il y avait des barbares parmi nos ancêtres. Une révérende mère est obligée de l'admettre. Nous n'avons pas le choix. Murbella avait pris le coup maintenant pour formuler ses questions uniquement par la pensée.
Pourquoi faudrait-il que je... Les vainqueurs se sont reproduits. Nous sommes leurs descendants. Leurs victoires souvent leur coûtèrent moralement très cher.
Barbarie est un mot trop faible pour décrire certaines choses que firent nos ancêtres. Murbella sentit le contact d'une main familière sur sa joue. Duncan. La douleur atroce était revenue avec ce contact.
Duncan, tu me fais du mal.
À travers la douleur, elle sentit des vides dans les vies qui lui étaient révélées, des choses qu'on lui cachait.
Seulement ce que vous êtes capable d'accepter pour le moment, lui dit la voix désincarnée.
Le reste viendra plus tard quand vous serez plus forte.
Si vous survivez.
Filtre sélectif. Les propres mots d'Audrade. Les nécessités ouvrent bien des portes. Un gémissement incessant émanait des autres présences, des lamentations.
Vous voyez ce qu'il arrive quand on veut faire fi du sens commun.
La douleur augmenta, elle ne pouvait y échapper. Chacun de ses nerfs était en feu. Elle aurait voulu crier, hurler des menaces, implorer qu'on l'aide. Une cascade d'émotions accompagnait la douleur, mais elle n'en fit pas cas. Tout se passait le long d'un fil ténu d'existence, et le fil pouvait rompre.
Je suis en train de mourir. Le fil se tendait. Il allait se casser.
Toute résistance était sans espoir. Les muscles n'obéiraient pas. Il ne lui restait d'ailleurs probablement pas de muscles. Elle n'en avait que faire des muscles. Il ne lui apportait rien d'autre que de la souffrance. Un enfer qui ne finirait jamais, pas même si le fil cassait. Elle voyait les flammes courir le long du fil, lécher sa pensée consciente. Des mains lui secouèrent les épaules. Non, Duncan. Chaque mouvement était pour elle un supplice pire que tout ce qu'elle avait cru jusqu'ici possible. L'agonie portait bien son nom. Le fil n'était plus tendu. Il se rétractait, se compressait. Il devint petit, simple chapelet de douleurs si extrêmes que plus rien d'autre n'avait d'existence. La notion d'être devenait floue, translucide, transparente.
« Vous voyez ?»
demanda la voix très lointaine de celle qui la guidait dans le Mohalata.
« Je vois des choses. »
Elle ne voyait pas exactement. Elle avait une conscience lointaine d'autres présences, d'autres chapelets. La mémoire seconde enfermée dans l'enveloppe de toutes les vies perdues. Elle s'étirait derrière elle en un convoi dont elle ne pouvait déterminer la longueur. Un brouillard translucide. Il se déchirait occasionnellement, laissant apercevoir des chaînes d'événements. Ou plutôt non, pas les événements eux-mêmes, leurs souvenirs.
« Soyez témoin, » lui dit sa guide. « Voyez ce que nos ancêtres ont fait. Les pires malédictions que vous puissiez inventer ne sont rien à côté. Ne trouvez pas d'excuses dans les nécessités de l'époque. Souvenez-vous seulement qu'il n'y a pas d'innocents. »
Atroce. Atroce.
Elle ne pouvait s'attarder sur aucune scène. Tout n'était que reflets et déchirures dans le brouillard. Mais quelque part se trouvait une lueur de gloire qu'elle savait pouvoir peut-être atteindre. L'absence de cette agonie. Pas plus que ça. Quelle gloire ce serait. Où se trouve ce glorieux état? Des lèvres se posèrent sur son front, sur sa bouche.
Duncan.
Elle tendit la main. Mes bras sont libres. Ses doigts s'enfoncèrent dans la chevelure familière. C'est réel? L'agonie s'estompait. À ce moment-là seulement, elle se rendit compte qu'elle avait connu des souffrances telles qu'aucun mot ne pouvait les décrire. L'agonie. Elle consistait à cautériser le psychisme et à le remodeler. Ce n'était pas la même personne qui ressortait à l'autre bout.
Duncan.
Elle ouvrit les yeux et vit son visage juste au-dessus du sien.
Est-ce que je l'aime encore? Il est ici. Il est la bouée à laquelle je me suis raccrochée au pire moment. Mais est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis toujours équilibrée?
Pas de réponse. La voix d'Odrad s'éleva quelque part en dehors de son champ de vision.
Ôtez-lui ses vêtements, des serviettes, elle est trempée, et portez-lui une robe adéquate.
Il y eut des bruits de pas, puis la voix d'Odrad à nouveau.
Ça n'a pas été facile, Murbella, mais vous avez réussi, je suis heureuse de vous le dire.
Cette joie dans sa voix.
Pourquoi était-elle si contente?
Où est ce fameux sens des responsabilités?
Où est le Graal que je suis supposée sentir dans ma tête? Que quelqu'un me réponde.
Mais la femme aux commandes de la navette n'était plus là.
Il ne reste plus que moi. Et j'ai le souvenir d'atrocités qui feraient frémir une honorée matriarche.
Elle eut une vision du Graal à ce moment-là, mais ce n'était pas une chose, c'était une question.
Comment faire pour régler tous les équilibres?